Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, évidemment. Je voudrais quand même vous remercier parce que je sais l'effort que représente l'acceptation déjà du principe de cet exercice et sa réalisation. Donc merci en particulier aux rapporteurs, merci à ceux qui se sont impliqués dans le travail, mais un merci tout particulier aux rapporteurs. On sait ce que cela vaut, on sait ce que cela coûte. Une petite remarque, non, deux préalables, avant d'entrer dans un propos un peu construit. Sur l'intermétier qui est revenu à plusieurs reprises, je ne sais pas si je rejoins un aspect de ce que Patrick Picard vient de dire, mais en tout cas je vais le dire de cette façon-là. Il n'y a pas, de mon point de vue, une injonction à une sorte d'intermétier artificiel. Il ne s'agit pas de se dire c'est bien de travailler avec des éducateurs de jeunes enfants, il faut à tout prix qu'on en trouve, etc. Pour faire quoi quand ils ne sont pas là dans l'environnement de l'école où l'on est? Donc, restons dans le réel. Hein, l'intermétier, il y a déjà les enseignants, il y a... je vais prendre par exemple le cas d'une grosse école primaire qui a des classes maternelles. Hein? Le directeur de cette grosse école primaire qui peut être totalement déchargé, il est parfois dans tout autre métier, hein, même si c'est un PE, que les enseignants d'école maternelle. Déjà l'impliquer réellement dans ces formations, c'est en soi un peu d'intermétier. Mais il y a les ATSEM, il y a, alors, je ne sais pas, à certains moments, peut-être pas sur toute la formation, mais le coordinateur ou le responsable des ATSEM dans une collectivité, enfin, il y a ces interlocuteurs-là. Il y a les réseaux d'aide. C'est des gens du métier, si je puis dire quand même. Hein. Ils sont professeurs des écoles, mais ils n'interviennent pas directement là. Mais c'est de l'intermétier. Il y a, vous avez parlé des animateurs du périscolaire, ou appelons-le comme on veut, mais en tout cas, ceux qui ont de la responsabilité sur les mêmes enfants que ceux dont on va parler. Il y a, alors, avec, si l'on parle essentiellement des tout-petits, peut-être que ce ne sont pas les bons interlocuteurs, mais à certains moments, les médecins de l'éducation nationale ou les médecins qui interviennent sur le territoire. Je sais qu'à Lyon, on est dans un cas de figure différent, mais les médecins qui interviennent sur le territoire, peut-être médecins de la PMI, en tout cas pour les plus petits. Hein. Ce sont des interlocuteurs, on va dire, presque institutionnels qu'on va trouver partout. Ensuite, les acteurs ou les responsables de structures propres à la petite enfance, eh bien, moi, je connais bien des territoires ruraux qui pourraient aller chercher très loin pour trouver le premier éducateur de jeunes enfants du département. Hein. Donc, on ne va pas s'imaginer que la consigne, c'est celle-là. Donc, restons... dans le réel, si je puis dire. Ce qui ne veut pas dire qu'au titre d'expert ou de témoin, on ne va pas, dans le cours d'une formation, recourir à un éducateur de jeunes enfants ou un formateur d'éducateur de jeunes enfants, ça dépend où vous êtes. Deuxième point, un petit peu à caractère général, et je regrette de ne pas l'avoir fait hier, finalement, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'une TPS, institutionnellement, ça n'existe pas. Il n'existe pas pour l'institution de TPS. Le décret du 24 juillet 2013 qui définit le découpage en cycle de la scolarité jusqu'à la fin du collège, hein, parle bien du cycle des apprentissages premiers, et il y a une phrase qui dit: le cycle des apprentissages premiers est constitué de la petite section, de la moyenne section, de la grande section. Donc, il y a une sorte de paradoxe j'aurais pu le dire hier dans ma présentation, à insister sur ces dispositifs spécifiques dans un contexte institutionnel qui ne distingue pas de TPS. Vous comprenez bien pourquoi, hein, celui qui fait la réglementation, le ministère, ne va pas instaurer une TPS dans un cycle des apprentissages premiers, comme s'il allait de soi que le cycle des apprentissages premiers soit constitué de 4 années, puisque c'est pas 4 années pour tous, etc. Mais en même temps, ça nous dit autre chose. Ça nous dit que qu'il s'agisse de TPS au sens où nous l'avons entendu dans nos échanges et où vous l'entendez, c'est-à-dire la classe de ceux qui ont moins de 3 ans, pour faire vite, ou de petites sections au sens traditionnel du terme, la classe des 3-4 ans, il y a peut-être à penser dans ce que vous avez appelé à plusieurs reprises la progressivité là tout au long de l'école, il y a quand même à penser, même s'il y a de la différenciation à faire et de la progressivité à installer dans ces 2 années-là, il y a quand même à penser une unité de cette petite section, hein, par rapport à quelque chose qui va devenir possible en grande tendance. Hein, on sait tous que les différences entre enfants sont extraordinaires et très précoces. Quelque chose qui deviendra possible en moyenne section et en grande section, qui ne l'est peut-être pas encore tout à fait en petite section. Je ne sais pas jusqu'où iront les recommandations incluses dans les prochains programmes. Un des espoirs que j'aurais, un des espoirs au pluriel que j'aurais personnellement, c'est que on puisse d'une certaine façon caractériser un peu les enjeux particuliers de ces 3 temps de scolarisation maternelle. Ce qu'on appelle la petite section, la moyenne et la grande, sans normer, hein, sans dire, voilà, le programme de la petite section, c'est ça, le programme de la moyenne section, c'est ça. Mais au fond, qu'est-ce qui est déterminant dans ces années-là, en moyenne, je veux dire, pour l'enfant moyen? Et je reviens sur cette chose que j'ai dite à plusieurs reprises dans les années passées, je crois qu'il faut que nous corrigions dans nos représentations et sans doute dans les textes cette idée que l'idéal pourrait devenir la norme. Non. Hein? Il y a des enfants qui peuvent lire à 4 ans et demi, 5 ans peut-être, on ne pourra pas en faire la norme pour tous les enfants. Hein? Je crois qu'il faut que nous protégions de tout cela. Parce que ça fait toujours mal aux mêmes, si je puis dire. Et à ceux dont on a tenté de parler depuis hier matin en particulier, c'est-à-dire ceux qui sont des groupes les plus vulnérables. Voilà, c'était deux petits éléments sur lesquels je voulais intervenir avant de revenir sur une clôture un peu plus, peut-être un peu plus formelle, en tentant d'intégrer là des réactions, des échos, des contrepoints, des compléments, des soulignements à ce que j'ai entendu sur la journée et demie qui s'est déroulée. Je crois que vous avez mis en avant, en tout cas parmi les organisateurs de ces deux actions, les deux mots de pilotage et de formation, et que c'est un peu autour de cela que vous m'avez demandé d'intervenir. Alors, j'en demande pardon à une grande part d'entre vous, mais à partir, je parle, si je puis dire, d'où je suis. Et je ne vais pas prétendre parler au nom de ceux qui sont ailleurs, qui sont autres que finalement l'organisation de l'éducation nationale, mais je vais penser à eux à plusieurs reprises. Je veux revenir sur cette idée de pilotage dont on sent bien qu'elle est actuellement peut-être en reconfiguration. On a parlé dans les dernières années, jusqu'à en être un peu saoulé, si vous me pardonnez cette expression, de pilotage par les résultats. On voit bien le mal que ça a pu faire à l'école maternelle, ou en tout cas certains d'entre nous voient ce que ça a pu faire à l'école maternelle comme un mal, plutôt qu'un bien. Et je voudrais souligner l'expression que mobilise par opposition au pilotage par les résultats de plus en plus souvent le directeur général de l'enseignement scolaire qui parle d'un pilotage pour les résultats. C'est pas la même chose. Et le pilotage pour les résultats qui nous est demandé s'agissant de l'école maternelle, c'est bien à la fois si l'on est dans la logique de la loi de 2013 qui vient d'être votée, et en attendant l'ensemble des textes d'application. Je rappelle quand même que le décret sur les cycles est sorti, mais pas le décret sur les conseils de cycle, que les programmes ne sont pas sortis, qu'on ne nous a rien dit, alors que la loi, dans certains de ses articles, le rapport annexé, en tout cas, évoque largement l'évaluation des élèves. On nous a rien dit du livret scolaire. On nous a rien dit du socle. Socle, livret de compétences étant lié. Vous voyez bien qu'il y a un ensemble de textes institutionnels de grande importance pour ce qui nous attend, qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore écrits, peut-être, pour une part d'entre eux. Le résultat, d'une certaine façon, qui requiert notre pilotage, c'est bien que on voudrait avoir un maximum, idéalement, tous les enfants qui ont parcouru l'école maternelle dans son entier, prêts à affronter les apprentissages systématiques et structurés du cours préparatoire. Je le dis comme ça pour bien redire que l'ambition de l'école maternelle, ce n'est pas d'apprendre à lire et à écrire avant d'aller au cours préparatoire. C'est un paradoxe, peut-être, dans une période où une évaluation montre que nous savons le faire. Que nous savons le faire pour 60% des élèves. Et que nous ne savons pas quoi faire de ceux qui n'en sont pas là au cours préparatoire. Et le deuxième résultat, qui pour moi est lié à ce que je viens de dire, c'est la nécessité pour l'école maternelle de se focaliser sur la réduction des conséquences scolaires des inégalités sociales et culturelles. L'école maternelle est là pour tendre vers, d'une certaine façon, l'égalisation des chances des enfants avant d'affronter les étapes du cours préparatoire. Elle n'est pas là pour les mettre en échec un an, voire deux ans plus tôt. Nous faisons fausse route lorsque nous sommes en permanence dans cette recherche de précocité. La précocité, c'est une pression insupportable pour un certain nombre d'enfants qui ne sont pas forcément les enfants des familles populaires, mais qui peuvent être les enfants de la toute fin d'année qui ont un petit décalage de maturité avec la moyenne de leurs camarades, etc., etc. Et je ne vous parle pas ici particulièrement des garçons du 31 décembre, mais enfin, on pense à eux quand même. Hein, parce que quand on regarde statistiquement, ils restent parmi nos élèves vulnérables. Je rappelle que la même évaluation de l'ADEP qui montre les grands progrès qu'a pu faire l'école maternelle dans la conduite des enfants, à savoir quasiment lire à l'entrée au cours préparatoire, montre aussi que les écarts entre filles et garçons se sont creusés. Cette idée que nous creusons des écarts et nous les creusons précocement, il faut en prendre conscience. Et je crois que pour tous ceux qui seraient des nostalgiques de ces apprentissages que peut-être l'école maternelle pourrait ne plus faire, il faut que nous réfléchissions aux conséquences que cela a eues sur les plus fragiles dans les années qui viennent de se passer. En tout cas, dans l'idée de pilotage, il y a l'idée de maintenir d'une certaine façon la permanence de ce but, hein, c'est ce qui nous est demandé, de regarder pour que les choses aillent dans ce sens-là, donc de vigilance, et on voit bien que il faudrait que nous soyons un peu plus d'accord sur certains indicateurs, hein, sur ce chemin-là. Et il y a aussi une histoire, j'ose le terme, de conviction. Je ne suis pas dupe. je suis très souvent sur le terrain à parler de l'école maternelle, je vois et j'entends dans la manière d'écouter le soupçon d'une grande partie de l'auditoire quant à ce qu'on peut raconter sur l'école maternelle. Il n'y a pas, me semble-t-il, aujourd'hui, une culture dans l'encadrement, dans les formateurs, une culture, on va dire, de bienveillance par rapport à une transformation de l'école maternelle. Je crois que ce qu'est devenue l'école maternelle, c'est une conséquence d'une forme de négligence collective de tout le monde, hein, y compris de l'inspection générale sans doute, et que, au fond, ça peut arranger tout le monde. Et que ce qui est devant nous est difficile, réellement. Ça va être beaucoup plus difficile, et je ferai le lien avec la formation, ça va être beaucoup plus difficile de changer ce qui est en place. Vous le voyez bien déjà avec les 9 demi-journées, hein. Cette idée d'une 9e demi-journée qui s'ajoute et la façon dont on peut contourner les choses pour ne pas la voir ou ne pas la faire, la manière dont les pratiques se sont structurées est une manière qui a un sens pour les acteurs de l'école maternelle dans la charge de travail qu'ils sont en train de donner actuellement. Et ce que nous allons leur demander, c'est effectivement, s'il s'agit de changer, un peu plus de travail. Donc il faut vraiment en être conscient pour bien se rendre compte que nous ne l'obtiendrons que si nous savons faciliter ce changement, si nous savons peut-être l'étaler dans le temps, si nous savons le guider et l'accompagner. Alors, on voit bien que cet argumentaire, il va concerner tout l'encadrement de l'éducation nationale. C'est pas gagné à tous les niveaux. J'ai entendu Madame Piguet hier matin qui a dit les choses avec réserve, pudeur, retenue. Mais on a bien entendu tout ce qu'il y avait derrière cette sagesse professionnelle. Il y a des argumentaires à construire qui valent pour nos supérieurs hiérarchiques, qui valent pour nos collègues, qui valent pour les gens avec lesquels on travaille. Je crois que pour les inspecteurs qui sont là, il y a à travailler collégialement sur les questions d'évaluation, d'évaluation individuelle des enseignants d'école maternelle. Je crois que c'est un acte qui n'est pas suffisamment qui n'a pas suffisamment de références partagées. Se mettre d'accord sur des observables, se mettre d'accord sur ce qu'on va rechercher, sur ce qu'on va observer. Je pense que là où ça a été fait, c'est une bonne chose, mais il faut avancer. Se mettre d'accord, pas à l'insu des enseignants. C'est déjà une étape de la formation des enseignants que de les informer des observables que nous nous donnons dans l'évaluation. Et c'est, je crois aussi, accroître d'une certaine façon leur lucidité professionnelle sur ce qui est attendu d'eux et qui est assez peu formalisé finalement, et sur les écarts qu'il pourrait y avoir entre ce qu'ils font et ce qui est attendu d'eux. Encore une fois, je le dirai à plusieurs reprises, et c'est pas une concession rhétorique, sans idée de culpabilisation. Je crois que on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a été conduit à faire. On ne fait pas changer les individus sur la base d'une culpabilisation. Je pense, et il me semble que partout où cela a pu être fait, ça a été une bonne manière, d'entrer en formation. Et je vais revenir sur une des objections qui était avancée hier face à ce que disait Monsieur Picard, sur la motivation pour changer, sans aller jusqu'à parler de désir ou d'envie. Je ne crois pas que spontanément il y a chez beaucoup de collègues du désir ou de l'envie, mais en tout cas l'acceptation de cette nécessité et la motivation pour se mettre dans un chemin de changement, la question de l'évaluation d'école. Je pense que l'évaluation d'école, là où elle a été mise en place selon une démarche participative, c'est-à-dire en impliquant l'équipe elle-même sur une auto-observation. Comment on s'organise? Comment on fait telle chose? Je ne dis pas qu'il faut absolument tout revisiter de la cave au plafond dans les écoles maternelles et dans les pratiques, parce qu'il faut souvent focaliser sur certains axes particuliers, mais on peut le négocier avec un directeur d'école, voire avec une équipe, mais une évaluation d'école dénuée de toute perspective normative, avec cette démarche participative, cette approche de type nous allons ensemble essayer d'analyser le système qui est mis en place dans l'école, nous allons ensemble essayer de trouver les ressorts pour une résolution des problèmes que vous pouvez rencontrer, peut-être d'ailleurs de mieux les identifier, ces problèmes que vous rencontrez, et de les résoudre ensemble. Moi, j'ai, dans le cadre de certaines enquêtes que nous avons faites l'an dernier, et qui ne portaient pas précisément sur la maternelle, mais sur les composantes du travail enseignant, j'ai été frappée par ce que m'ont dit des directeurs d'école, à qui je ne posais pas du tout la question. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont apporté cela dans l'échange, et à des endroits différents. Donc, ça a un sens. Quand des gens à qui vous ne posez pas explicitement la question vous parlent de la même chose sans s'être concertés. Cette idée que, au fond, l'évaluation d'école avait induit finalement une dynamique qui les avait relégitimés comme animateurs pédagogiques de l'équipe d'école. C'est-à-dire, avec l'inspecteur et au terme de l'évaluation, ben oui, on s'est mis d'accord sur quelques constats. On n'était peut-être pas d'accord sur tout, mais on s'est mis d'accord sur quelques constats. On s'est mis d'accord sur quelques objectifs. Et maintenant, au fond, pour mes collègues, ben, je suis celui qui va permettre que ça se fasse avec d'autres, mais permettre que ça se fasse. Et je pense que dans un certain nombre de cas, en particulier à l'échelle d'école peut-être un peu importante, un dispositif d'évaluation d'école, mais pas un dispositif qui vous mangerait deux semaines, hein. Un dispositif d'évaluation d'école peut être un bon déclencheur pour mieux spécifier ces problèmes professionnels qu'il faut résoudre là, précisément à tel endroit. Je sais que actuellement, au niveau du cabinet du ministre, on est très très porté sur ces solutions-là. J'espère que quand on va être sorti officiellement des travaux sur des échanges sur le métier enseignant, sur le métier d'inspecteur, etc., ces propositions-là vont pouvoir être portées officiellement, publiquement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, a un bon potentiel. Mais bon, il va falloir peut-être aussi s'y préparer un peu et s'y former. Je voudrais, par ce biais, basculer vers cet univers de la formation. Formation au sens de processus, sous quelque forme qu'il se présente, qui va contribuer finalement à une amélioration du service rendu aux enfants, peut-être à une amélioration aussi des pratiques professionnelles aux yeux même de ceux qui les pratiquent. C'est-à-dire se sentir quand même dans une trajectoire plutôt positive, où on grandit dans le métier, ça peut être une motivation. Je ne suis pas sûre, pour autant, qu'elle soit totalement partagée. Je ne suis pas sûre. Mais je perçois quand même un peu plus d'enthousiasme en maternelle qu'en élémentaire sur cette idée de rentrer dans des processus de changement. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose là, on est peut-être au bon moment et il ne faut pas le rater. Je crois que ce pourquoi c'est difficile, mais vous le savez aussi bien que moi, mais il faut quand même se le redire de temps en temps, c'est que ce métier d'enseignant engage un rapport à l'apprendre qui ne va pas de soi, qui n'est pas simple pour beaucoup d'enseignants. C'est-à-dire, je crois qu'il y a à la fois une peur de s'engager dans des apprentissages nouveaux parce que c'est le risque, d'une certaine façon, que ça vous contraigne à voir vraiment qu'il faut faire autre chose. Et je crois qu'il y a en même temps chez des enseignants une sorte de culpabilité à ne pas rentrer dans ces apprentissages nouveaux. C'est-à-dire que les enseignants savent quand même que apprendre, ça fait grandir. Et refuser d'apprendre, ça pose quand même problème. Même s'ils ne se le disent pas comme ça, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément ambivalent dans le rapport à la formation. Alors ils renvoient toujours la mauvaise chose sur le formateur. Il faut accepter d'être la mauvaise chose. Quand on a été, enfin, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous ont été, comme moi, je dirais, formateurs depuis qu'ils ont commencé, on a l'impression qu'on est toujours un échec comme formateur, systématiquement. Alors parfois, quelques années après, on vous dit que vous avez beaucoup apporté, mais jamais sur le moment, jamais sur le moment. Donc il faut l'accepter, on est la mauvaise chose déformée. Ça renvoie quand même à l'être. On n'est pas dans ces métiers de l'enseignement sans s'engager personnellement beaucoup. Et changer, c'est plus que changer l'enseignant qui est en soi quand même. Changer, c'est accepter de se remettre en question quelque part. Et c'est toujours coûteux, surtout dans notre système éducatif, où les contreparties positives que nous pouvons donner aux enseignants qui ont accepté de changer sont très minces. Je crois qu'il faut que nous reconnaissions que nous avons peu de gratification d'une certaine façon, si ce n'est quelques écrits très favorables, etc. Mais il y a peu de gratification pour ceux qui ont accepté de changer, au fond. Il y a d'autres métiers où c'est où on est plus quand même dans la valorisation. Mais en même temps, il faut qu'on se le dise, il y a de la résistance à la gratification. Hein? Puisque gratifier ceux qui changeraient, ce ne serait pas gratifier tout le monde, et que c'est quand même mieux un système qui gratifie de manière égalitaire. Hein? Donc, tout cela est profondément ambigu, mais il faut en être conscient. Et du coup, c'est une manière de dire qu'il faut, quand on est dans des fonctions alors d'inspection essentiellement, mais peut-être aussi de direction, à quelque niveau que ce soit, hein, direction des services dans une collectivité, etc., ne jamais oublier de dire ce qui va bien ou ce qui va mieux. On est prompt à dire ce qui ne va pas, hein, mais allez, apprenons à faire des compliments, si je puis dire. Hein. Apprenons à avoir ce regard positif aussi souvent qu'on le peut. Le deuxième point sur lequel, au-delà de ces ambivalences, sur lequel je voulais attirer votre attention, sur le fait, sur ce que nous pouvons interprété comme de la résistance au changement, c'est sur ce qu'on pourrait appeler le. Pour beaucoup d'enseignants, quand même, une faible lucidité sur ce qu'ils font réellement. Enfin, tous ceux qui, comme moi, et vous êtes nombreux dans cette salle, sont en situation d'observer des pratiques, vous savez l'immense écart qu'il y a entre ce que pensent faire des professionnels et ce qu'ils font réellement. Hein? Mais nous sommes peut-être tous dans ces situations-là, mais pour les enseignants, c'est souvent le cas. Et je crois qu'il ne faut pas que l'on s'effraie d'entendre, mais on le fait déjà. Vous passez votre temps, les inspecteurs, quand vous dites des choses, oui, mais ça, on le fait déjà. Mais est-ce que c'est sûr qu'on le fait déjà? Hein? On pense qu'on le fait. Mais on y voir de près. Et c'est pas encore une fois négatif. Je crois qu'il y a des grandes différences entre ce que l'on peut concevoir intellectuellement, ce que l'on peut rêver de faire et ce que l'on peut faire au jour le jour. Et du coup, peut-être que objectivement certains ne sont pas convaincus qu'ils doivent changer puisqu'ils ne voient pas ce qu'il y a à changer. Donc cette idée de regarder des vidéos, regarder d'autres, ça amène à se regarder soi, même si c'est pas soi qu'on regarde, quoi. Parce qu'on voit bien quand même les parentés avec ce qu'on fait quand on vous montre ce que font les autres. Ça aide aussi à des prises de conscience de cette chose-là. Je crois qu'ensuite, une des difficultés avec la maternelle, pour moi, elle est évidente, mais encore une fois, vous savez, je suis la spécialiste d'enfoncer les portes ouvertes, hein, donc je vais en enfoncer une autre. Le propre de la maternelle, souvent, c'est que la matière même de ce qu'on peut appeler l'enseignement à l'école maternelle n'est pas le plus souvent ce dont les enseignants sont instruits en formation. Je vais le dire autrement. Quand vous travaillez avec des enseignants sur le développement du langage, vous leur donnez des repères pour construire leur pratique, mais vous ne leur donnez pas la maîtrise de la matière qu'ils vont transmettre. Parce que ce qu'ils vont transmettre aux enfants, ce n'est pas un discours sur le développement du langage, ce n'est pas une description de la langue. Alors que si vous formez des enseignants, je vais dire n'importe quoi, sur grandeur et mesure au cycle 3, le contenu même de votre formation va pouvoir d'une certaine façon être repris et didactisé pour être transmis aux élèves. Alors qu'en maternelle, et je crois que c'est ça qui fait la différence du métier d'enseignant en maternelle par rapport à l'élémentaire, et c'est dans ce sens qu'on peut dire qu'ils n'enseignent pas, dans la majorité des cas, c'est qu'ils ne transmettent pas par des signes les contenus même théoriques qu'on leur a apportés. D'où, à certains moments, la difficulté de la formation dès la formation initiale. Et je crois que si on n'a pas conscience de ça, c'est-à-dire que ce qu'ils vont enseigner, c'est pas ce qu'on est dans la formation. Dans la majorité des cas. Je dis bien dans la majorité des cas. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir ce qui pourrait échapper à cette règle. Et on voit bien qu'il y a des choses dans la découverte du monde qui peuvent échapper à cette règle. Parce que ça renvoie aux connaissances encyclopédiques. Mais si vous êtes sur le langage, si vous êtes sur la motricité, alors la question est de non pas enseigner au sens traditionnel du maître, mais bien construire ces dispositifs pédagogiques, identifier les situations, identifier les postures que le maître devra adopter dans ces dispositifs et ces situations pour faire apprendre quelque chose. Et je vais revenir sur apprentissage et acquisition. Parce que je pense que si on absolutise les écarts entre apprentissage et acquisition, on peut construire des caricatures épouvantables. Oui, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'une certaine façon ce que certains appellent les acquisitions. Ils ont le droit, mais tout est acquisition. Où tout est apprentissage. Et ce que d'autres appellent les apprentissages premiers ou les apprentissages incidents, c'est-à-dire ce qui va être le produit d'une activité de l'enfant dans des situations qu'on aura créées ou enrichies justement pour que son comportement se transforme. C'est ça qu'on appelle des apprentissages incidents. Des apprentissages aussi implicites, c'est-à-dire qu'ils se font en situation, de manière contextualisée, sans qu'on les ait absolument attendus à ce moment-là. Ce que nous disent la majorité des spécialistes de l'apprentissage actuellement, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions ça fonctionne pour tout ce qu'on peut appeler des apprentissages adaptatifs, c'est-à-dire des apprentissages dans lesquels, finalement, l'enfant s'adapte à un environnement. Ça peut être un environnement moteur, ça peut être un environnement langagier et linguistique. Mais dès que vous êtes sur des objectifs, on va dire, plus culturels, plus encyclopédiques, il ne faut pas imaginer que l'enfant va trouver, dans le contexte spontané ou dans tous les contextes, la matière des apprentissages qu'on veut faire. Hein. Et c'est ce que certains appellent des apprentissages secondaires. Alors moi, je peine à utiliser ce terme secondaire parce que primaire, secondaire, ça renvoie à tellement d'autres choses chez nous. Mais d'aucuns distinguent les apprentissages primaires, les apprentissages secondaires de ce que moi j'appelle plutôt des apprentissages incidents ou implicites dans un cas et des apprentissages plus culturels dans l'autre cas. Et ne nous trompons pas, ce que l'on veut à l'école maternelle, c'est bien les deux. Il n'y a pas à choisir. C'est-à-dire que dans un certain nombre de domaines, et plus les enfants sont petits, et j'expliquerai pourquoi cette unité de la petite section dans un instant, plus peut-être la part de certains apprentissages incidents et implicites adaptatifs va être importante, mais si nous voulons travailler à l'égalisation des chances, c'est pas sur les apprentissages adaptatifs qu'il va falloir seulement jouer, c'est sur les autres. Et la littérature de jeunesse, comme je dis quelquefois, la culture de l'écrit, c'est pas parce que vous mettrez les enfants dans la bibliothèque la plus riche de Lyon ou d'ailleurs que ça va se construire. S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un guidage vraiment vers les acquisitions que l'on souhaite à moyen ou à long terme. Alors, je ne dis pas quelles sont pour tout de suite ces acquisitions, mais cette médiation culturelle, linguistique, langagière à un certain niveau, je repense à ce que disait Madame Tamin hier sur ces éléments-là, il faut bien distinguer finalement le langage que tout enfant va acquérir parce qu'il est dans un milieu qui est en général un milieu parleur, et ce langage de l'école qui suppose un guidage, un étayage assez particulier. Et au fond, cette construction de la professionnalisation à l'école maternelle, c'est autour de tout ça qu'il faut la travailler. Hein. Alors, on ne va pas répudier les apprentissages, même chez les tout-petits. Oui, j'espère qu'ils vont faire des apprentissages et qu'on n'aura pas honte de le dire. Hein, même si ce sont des apprentissages incidents. Et en même temps, j'espère qu'on va, tout en respectant leur bien-être, tout en respectant leurs conditions propres à leur petite enfance, les mettre en voie de faire des apprentissages qu'ils n'auraient pas fait dans leur milieu familial. C'est pour ça qu'on les veut plutôt à l'école maternelle. C'est pas pour anticiper d'un an les exigences de la fin de l'école maternelle. C'est pour se dire au fond, on peut étaler sur 4 ans ce parcours qui est quand même très exigeant, en particulier ce parcours linguistique, langagier et culturel. Ce qui ne veut pas dire que la journée de l'enfant est saturée de ça. Et je crois qu'on se tromperait si on imaginait que l'école maternelle n'est pas à ce service-là. Et encore une fois, faisons attention, travailler avec des professionnels de la petite enfance, ça ne veut dire ni travailler contre eux, ni travailler nécessairement comme eux. Nous avons des objectifs propre, et c'est très bien qu'il y ait des enfants de 2 à 3 ans dans des crèches, dans des lieux multi-accueil ou ailleurs, où on va s'intéresser à eux d'une certaine manière, mais disons-le, ces enfants que la circulaire de décembre 2013 voudrait qu'on aille chercher sont des enfants qui ont besoin finalement d'autre chose. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce faisant, nous soyons en situation de les faire souffrir. C'est bien ça. J'utilise souvent leur faire des apprentissages à leur mesure et à leur manière, tout en leur permettant de bien vivre leur petite enfance. Les deux doivent être possibles. Les deux doivent être possibles. Et c'est cette gageure-là, finalement, qu'il faut que nous arrivions à tenir. Alors, je crois, et je ne voudrais pas abuser de mon temps, hein, j'ai vu que je l'ai atteint, je terminerai là-dessus. Il y a un dernier aspect sur lequel il faut que nous avancions, en particulier en petite section. Après, ça n'a pas la même importance, mais je vais me focaliser sur cette question de ce que vous avez appelé tout petit, on va dire ce que j'appelle la petite section, les 2-4 ans. C'est la tension entre ce que j'appelle le collectif contraint et l'individuel choisi. La pédagogie dont on nous fait le grief à l'école maternelle, ce serait d'être trop dans le collectif contraint. C'est ce que d'aucuns appellent la pédagogie de la consigne dans l'école maternelle française. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui est là, qui leur dit « faites ci, faites ça, vous faites ci, faites ça ». Et puis on les assigne, soit tous, soit par groupe, à une tâche précise, etc. Alors, on voit bien comment il va falloir doser par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Hein. À quel moment on est dans de l'activité guidée sous consigne avec un groupe? Et à quel moment on peut lâcher la bride, hein, et leur permettre d'être beaucoup plus dans de l'individuel choisi? L'individuel choisi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant prend des initiatives sur ce qu'il va faire. Et dans cette idée même de prendre des initiatives, on voit ce que l'on peut mettre. Il y a une sorte de délégation d'intelligence à l'enfant. Il commence à se projeter. Il veut faire ça. C'est-à-dire qu'il sait que ça, c'est riche de telle ou telle possibilité. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'important dans le jeu, cette initiative. Parce qu'il y a de l'invention derrière. Hein? Alors après, il faut voir comment on récupère cette invention. Mais ce temps-là est important. Plus d'individuels choisis, en particulier avec les petits. Mais il ne faut pas que ça soit complètement bloqué après. Mais une fois qu'on a dit ça, ça légitime toutes les interrogations actuelles sur l'environnement de l'enfant, hein, sur les aménagements d'espace. Aménagement d'espace et apport de matériel. C'est-à-dire que pour que l'enfant puisse choisir, il faut encore qu'il y ait dans son environnement des dispositifs, des objets, des jeux, etc., etc., qui suscitent de la motivation, qui suscitent de l'envie, qui lui donnent finalement l'idée même de ce qu'il pourrait faire. Hein? C'est le grand étalage du matériel Montessori sur les étagères en permanence accessible. Hein? C'est, ça sert à ça, le matériel Montessori. Il n'est jamais enfermé dans les placards. Il est visible, il a un sens pour l'enfant, hein, puisque associé au matériel, il y a de la démonstration, on sait ce qu'on en fait, hein? On le remet au même endroit, et il y a des choses qui se construisent par ce biais-là. Et c'est ainsi, finalement, que certains, par le choix de certaines activités, apprennent. Et on voit bien comment certains enfants peuvent papillonner d'une chose à l'autre, et c'est aussi l'art de l'enseignant de les aider à persévérer, et comment d'autres, à partir du moment où ils ont choisi, peuvent être d'une persévérance, y compris quand ils sont petits, absolument étonnante. Et je crois que ces équilibres-là qu'il va falloir construire sur le temps de la petite et toute petite section, et s'il y a quand même un élément qui fait lien, mais qui fait aussi différence, c'est le maniement du langage, ce sont les usages du langage qu'ont les enfants. Il faut que les enseignants se représentent clairement que les tout-petits n'ont pas, finalement, les représentations de choses qui sont associées aux mots qu'on leur dit pour comprendre ce qu'on attend d'eux uniquement à partir des consignes. Hein. Et le faire avec, le jouer avec, etc., a une importance considérable. Voilà, on pourrait prolonger beaucoup. Moi, je vous engage à, comme je le dis toujours, à échanger beaucoup entre vous, parce que c'est quand même dans le collectif que nous apprenons, et à, si je puis dire, travailler avec les équipes telles qu'elles sont, en sachant que, oui, nous voulons transformer certaines choses, mais nous n'imaginons pas que les inspecteurs ont des baguettes magiques, que les formateurs ont des baguettes magiques. Nous savons que la transformation, c'est le temps. Et la didactique de l'urgence, dans laquelle on se place trop souvent, que ce soit dans les classes ou que ce soit en formation, ne nous permet pas de réussir. Donc, essayons de construire dans le temps et de leur donner cette vision-là que, ben, oui, on reviendra, on en reparlera, etc. Mais je ne suis pas une fanatique du mot « accompagner ». Je pense que on en abuse et il est associé en général aux individus les plus dépendants. Et accompagner des enseignants me paraît pas toujours la bonne chose. Mais c'est bien cette logique-là, d'être quand même à leur côté. Hein? Peut-être un peu en avant, mais à leur côté pour avancer avec eux. Hein? Et les aider plutôt que les diriger d'une certaine façon. Voilà.